Juste avant, Alexandre, je vais inviter les enfants
oui.
à s'avancer. Vous avez un culte ce matin?
Ça aurait un culte en bas. Le 12 octobre, c'était ta fête. Nicolas, c'est ça? Hey, bonne fête, Nicolas, en retard. Hey. Alors, on va prier avant que vous descendiez, que Dieu vous accompagne et vous donne du bon temps en bas avec vos moniteurs. Seigneur, on vient devant toi pour te louer. On vient de chanter un beau chant. Que c'est toi qui es l'agneau, tu es mort pour nos péchés, le trésor des cieux nous a été donné. On veut te dire merci Dieu et on te prie que tu puisses accompagner nos moniteurs et les enfants pour que tu puisses leur donner un temps ensemble dans ta présence pour qu'ils puissent apprendre à te connaître et que tu touches leur cœur, s'il te plaît Dieu. C'est dans le nom de ton Fils qu'on te prie. Amen.
Amen.
Bon culte les enfants.
Alors, bonjour à tous. C'est un privilège pour nous, Cynthia et moi, d'être ici ce matin, d'être en famille, en fait, avec la famille, notre famille qui est ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Alexandre Marquis. Je suis pasteur responsable de l'évangélisation et de la louange à l'Église de l'Espoir à Longueuil, sur la rive sud de Montréal. Et je suis le fils de Gaëtan et Suzanne Marquis et le frère de David, qui il est parti, là. Ah, il est là! Le frère de David. Ouais, c'est lui, là. C'est mon frère et je suis heureux d'être avec la famille ce matin. Et aussi, juste vous présenter mon épouse, Cynthia, qui est ici. On est mariés ensemble depuis 8 ans maintenant. Et on a 3 enfants, 3 garçons. Ça court dans la maison, ça bouge. Nathan, qui a 4 ans et demi, Émile a 2 ans et demi et Liam a 18 mois. En 2007, après avoir reçu une conviction de l'appel de Dieu pour le ministère à plein temps, j'ai laissé mon travail pour entreprendre ma formation théologique à plein temps. Et maintenant, depuis septembre cette année, depuis un mois maintenant, j'ai été embauché par l'Église d'Espoir de Longueuil à 3 jours par semaine, principalement pour m'occuper de l'évangélisation à Longueuil. Et le reste du temps est employé pour terminer mes études, qui me restent encore un petit peu à compléter pour ma maîtrise à temps partiel, donc ma formation théologique. Le ministère d'évangélisation, présentement, vous avez entendu parler tout à l'heure que Hugo Étier allait être ici ce soir. Bien, c'était lui qui s'occupait de l'évangélisation avant à Longueuil. Et depuis son départ pour Rivière-du-Loup, il n'y avait pas personne qui avait pris sa place. Et puis, ça l'a baissé un petit peu au niveau de la participation de l'Église dans l'évangélisation. Donc, mon travail maintenant consiste à mettre en place un ministère d'accueil et faire le suivi auprès des visiteurs de l'Église. Il y a beaucoup de visiteurs qui n'ont pas nécessairement une connaissance de l'Évangile et on veut faire un suivi auprès d'eux, présenter l'Évangile. Ensuite de ça, à travers le ministère des visites, on veut former les gens dans l'Église pour faire ce travail-là à travers le cours d'évangélisation explosive qu'on a commencé à donner cet automne. Et puis finalement, mon travail me demande aussi à coordonner les événements d'évangélisation pour notre Église. Et puis c'est vraiment un privilège pour moi, après ces quelques années aux études à temps plein, de pouvoir commencer déjà à goûter un peu le ministère, de pouvoir travailler dans l'évangélisation. Dans les dernières années, l'Église de Beauport, vous nous avez soutenus financièrement pour les études. Et je tenais à vous remercier, à exprimer notre reconnaissance pour ça. C'est vraiment vraiment un privilège de pouvoir avoir eu l'occasion d'abandonner le travail pour se consacrer aux études à plein temps. Et puis, vous avez participé là-dedans et on est reconnaissant pour ça. On voulait vous remercier beaucoup, beaucoup de votre soutien. Et puis, c'est vraiment pour nous une bénédiction. Et on est grandement bénis maintenant de voir l'œuvre que Dieu fait à travers votre Église, mais aussi à travers nous maintenant, alors qu'on entre dans le ministère et dans le travail. Et c'est vraiment un privilège pour ça de pouvoir être ici. David, ça faisait plusieurs mois qu'il me demandait « Quand est-ce que tu vas venir prêcher à Longueuil? » J'ai dit « C'est faux, pas à Longueuil, à Beauport. Quand est-ce que tu vas venir à Beauport? » J'ai dit, j'étais débordé avec les études, mais là, il dit « Faut que j'aille faire un tour, au moins pour les remercier, puis en même temps apporter quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur. » Alors pour ça, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans le psaume 145. le psaume 145. Et je peux vous dire, tous les chants qu'on a chantés ensemble ce matin, j'ai plus besoin de prêcher, quasiment. C'est vraiment beau de voir que les chants allaient vraiment dans le sens du passage de ce matin. Et on va prendre le temps de le lire ensemble, le psaume 145. Psaume 145, et je vais lire à partir du verset 1, « Louange de David. » Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. On va se courber ensemble dans un mot de prière. Seigneur, lorsqu'on considère toutes ces paroles qui nous parlent de toi dans ce psaume, on réalise combien tu es grand. Et moi, je réalise combien je suis petit devant toi. Comment un Dieu si grand a pu penser à moi? Que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Seigneur mon Dieu, je veux te rendre grâce, te dire merci d'avoir manifesté ta grandeur envers moi en Jésus-Christ et d'avoir fait de moi ton enfant et ton serviteur. Seigneur, j'ai besoin d'apprendre de toi ce matin. On a tous, comme enfants de Dieu, besoin d'apprendre de toi, d'apprendre combien tu es grand et combien tu manifestes ta grandeur dans nos vies afin qu'on puisse te célébrer, qu'on puisse chanter, publier ta louange et tes hauts faits. Seigneur, viens nous enseigner ensemble ce matin, parle à nos cœurs, que nous puissions être attentifs et que ton esprit, Seigneur mon Dieu, puisse venir nous ouvrir les yeux sur les vérités qui sont dans ta parole, afin qu'on puisse les appliquer à nos cœurs et les mettre en pratique tous les jours de notre vie. C'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Le psaume 145 a été écrit par le roi David. Et une des choses qu'on découvre dans les psaumes, c'est que le roi David était un des plus grands psalmistes. 73 des 150 psaumes sont attribués au roi David. David était un grand musicien, il jouait de la harpe en présence du roi Saül. Mais un grand musicien passionné pour Dieu. Il aimait louer Dieu par la musique et les chants. Et à travers les psaumes, on découvre le cœur d'un adorateur. J'ai été appelé à m'occuper du ministère de la louange à Longueuil et je m'en occupe toujours. Et une des choses que j'ai appliqué mon cœur à faire avec les années, c'est de prendre le temps de méditer sur les psaumes pour découvrir combien un cœur passionné pour Dieu exprime la louange envers Dieu. Et on voit dans ce psaume-là le cœur de David, et on voit cet appel de la part du roi David à ce que toute l'humanité, la terre entière, bénisse le nom de l'Éternel. Mais à travers le psaume et les psaumes, on découvre pas seulement le cœur de l'adorateur, mais aussi on apprend à connaître notre Dieu. Parce que par l'Esprit de Dieu, qui travaillait à travers les auteurs, Dieu a mis ses propres paroles dans ces psaumes-là. Et on apprend à découvrir qui est Dieu, ce qu'il a accompli dans nos vies, afin qu'on puisse le louer. Ce psaume nous aide à découvrir un aspect particulier de la personne de Dieu, et cette particularité-là, c'est sa grandeur. Et David exhorte tous les habitants de la terre à louer Dieu pour sa grandeur. Je pense que tout bon chrétien peut dire que Dieu est grand. On l'a chanté tout à l'heure, que Dieu est digne de louange, digne est l'agneau. Dieu est grand et digne de louange. Mais parfois, il arrive que ce qu'on vit est dans le concret de notre vie, dans les situations de chaque jour. Ce qu'on proclame de notre bouche, de la louange, on dit que Dieu est grand. On réalise que dans les épreuves et les difficultés qu'on peut rencontrer, on réalise finalement, les gens autour de nous disent, finalement son Dieu est peut-être pas si grand que ça s'il s'inquiète tant que ça. Mais finalement, ce qu'on voit dans ce psaume-là, c'est que David nous appelle à contempler la grandeur de Dieu. Pour que ce soit le sujet d'une louange, mais aussi pour que nos cœurs soient appliqués à avoir confiance en Dieu. Pour qu'on puisse arriver à des moments difficiles dans la vie où on est capable de dire, Seigneur, je compte sur toi. On va dans le jardin et on est là pour compter sur Dieu dans tous les moments de notre vie. Et plutôt que de dépendre sur nos propres forces pour passer à travers les épreuves, David nous exhorte à contempler la gloire de Dieu et la grandeur de Dieu pour qu'on puisse y arriver à placer notre confiance en lui. Ce matin, on va regarder ensemble quelques particularités de la grandeur de Dieu qui nous sont exprimées dans ce psaume-là. Et en méditant sur la grandeur de Dieu, et en cherchant à célébrer Dieu pour sa grandeur, on veut apprendre à trouver notre refuge en lui et compter sur lui pour chaque instant de notre vie. Le psaume débute en appelant à la louange au verset 3. On voit que l'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. En d'autres mots, si j'essaye de comprendre la grandeur de Dieu, puis j'applique mon cœur à essayer de méditer sur sa grandeur, ça va m'amener à un point où ce que je vais réaliser que la grandeur de Dieu est tellement grande que mon esprit a de la difficulté à saisir à quel point Dieu est grand. Sa grandeur est insondable. Job va dire, Job 36 au verset 26, il dit « Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. » Tellement grand que sa grandeur, je n'étais pas capable de la saisir. Impossible de représenter Dieu d'une certaine façon et d'essayer de se faire une représentation qui va être valable pour que je puisse vraiment saisir à quel point il est grand. Et on voit dans l'histoire du peuple d'Israël que les gens ont essayé de se faire un Dieu, de représenter Dieu de certaines façons, mais jamais les images qu'on peut se faire de Dieu vont véritablement représenter la grandeur qu'il a réellement, sa grandeur. Mais si je peux pas saisir intellectuellement, entièrement sa grandeur, est-ce que c'est quand même possible de saisir un petit peu pour que je puisse le louer, le célébrer pour sa grandeur? Je pense que oui, parce que Dieu a révélé sa grandeur. Dieu a révélé de certaines façons, même si elle est tellement grande que je peux pas le saisir, je pense que ce que Dieu nous raconte de lui-même fait en sorte qu'on peut saisir un peu plus et encore un petit peu plus à quel point il est grand pour que nos cœurs puissent être tournés vers lui dans l'adoration. J'aimerais qu'on puisse tourner rapidement ensemble dans Ésaïe au chapitre 40 et juste pour illustrer un petit peu, des fois, essayer de saisir à quel point Dieu est grand. On va aller voir un passage dans Ésaïe 40. Ésaïe 40, verset 12. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, prit les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse, en fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière dans une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu, et ses animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien, elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous? Et quelle image ferez-vous son égal? On voit dans ce psaume-là, dans Ésaïe 40, le verset 12, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Et j'expliquais ça dernièrement aux classes d'enfants. Je ne l'ai pas amené avec moi, mais j'avais amené un petit flacon d'eau. Avec à peu près, s'il y avait 50 millilitres dans le flacon d'eau, c'était beau. Et j'avais demandé aux enfants, combien pensez-vous que je suis capable de mettre d'eau dans le creux de ma main? Et là, est-ce que je suis capable de mettre tout le flacon? Ah oui, oui, oui. D'autres, non, jamais. Finalement, je mets un petit peu d'eau dans le creux. J'étais à peine capable de mettre quelques millilitres d'eau dans le creux de ma main. Ésaïe 40 nous dit que Dieu a mesuré l'eau dans le creux de sa main, mais toutes les eaux de la terre, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, les grands lacs, prenez-les toutes, mesurées dans le creux de sa main. Alors que moi, j'ai de la difficulté à mettre dans le creux de ma main quelques millilitres d'eau, Dieu met des milliards de millions de gallons d'eau dans le creux de sa main. Ça, c'est juste ce qu'on peut essayer de saisir de la grandeur de Dieu. Ce qu'on est capable d'exprimer un peu par nos mots. Ça, c'est la grandeur de Dieu. Mais si on revient au psaume 145, on voit que Dieu a manifesté sa grandeur de plusieurs façons. Et ça, cette image-là, c'est simplement pour nous aider à saisir combien Dieu est grand. Je suis juste une poussière dans la balance. Je suis à peine une molécule d'eau devant la face de Dieu. Combien Dieu est grand, lui qui est capable de tout mettre, les cieux, la terre dans sa main. Mais on voit dans le psaume 145 différentes façons de voir combien Dieu est grand. Et à partir du verset 4, on va voir différentes façons de la façon que Dieu a démontré sa grandeur. Et premièrement, Dieu a démontré sa grandeur en manifestant sa puissance redoutable, versets 4 à 7. Et on voit ça particulièrement dans le verset 6, où David dit « On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. » La puissance redoutable de Dieu s'était manifestée envers Israël et même dans la vie de David. Si on recule un peu dans l'Ancien Testament, parce que en fait les psaumes sont la louange envers Dieu de ce qui s'était accompli avant, on recule un peu dans le livre de la Genèse, on réalise que tout ce qu'on voit autour de nous, la création. Dieu a créé ça en disant lumière, terre, étoile. Tout ce qu'on voit, tout ça a été créé simplement à partir de rien, juste avec sa parole. Et lorsqu'on s'arrête à ça et qu'on médite combien l'univers est grand et que Dieu a créé tout ça, tout ce qui est autour de nous, simplement à partir de sa parole, créé en six jours, la terre, la mer, les astres, les oiseaux, les reptiles, tout ça à partir de rien, on voit que Dieu manifeste sa grandeur et sa puissance à travers la création. Un jour est arrivé un moment où Dieu a manifesté son jugement aussi dans l'Ancien Testament. On voit dans Genèse 6 l'histoire du déluge. Un déluge qui a anéanti tout ce qui vivait sur la terre. En 40 jours et 40 nuits, Dieu dit qu'il y ait de la pluie, puis tout tombe. L'eau au-dessus des montagnes, Dieu détruit tout ce qui était sur la terre, sauf quelques personnes et quelques animaux dans l'arche. Mais Dieu a manifesté sa puissance en simplement en faisant tomber le déluge. Waouh, Dieu est grand. Dieu est tellement grand. Aussi, Dieu a fait manifester sa puissance dans la délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Imaginez-vous arriver sur le bord de la mer. Là, hop, on est coincé. L'armée égyptienne nous poursuit. Et là, la mer qui s'ouvre forme des colonnes et on traverse. Vite, on y va, on y va. On regarde en arrière, tout retombe sur les Égyptiens. La puissance de Dieu, incroyable. Incroyable de s'imaginer que j'arrive sur le bord de la mer puis les eaux se mettent à se lever juste de même. J'ai de la misère à prendre un petit peu de millilitre d'eau dans ma main. Et puis là, ça se tasse, ça, mon ami, tu traverses. La puissance de Dieu s'est manifestée à travers les disciplines en Égypte, mais aussi à travers la délivrance d'Israël. Mais ultimement, pour nous qui sommes un petit peu plus tard dans l'histoire, Dieu a manifesté sa puissance dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. La puissance de Dieu a été manifestée aux hommes dans la puissance à travers la personne de Jésus-Christ. Pendant son ministère sur la terre, qu'est-ce que Jésus a fait? Les gens, pas capables de marcher, depuis leur naissance, Jésus dit, « Lève-toi et marche, mon ami. » Le gars prend son lit, puis il s'en va. Personne n'aurait pu faire ça. C'est seulement Dieu lui-même qui est capable de faire ça. Et même dans Marc 2, lorsqu'on lit l'histoire, Dieu est en train de démontrer qu'il est Dieu et qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus démontre cela en faisant lever le paralytique et en le faisant marcher. Jésus, dans sa vie sur la terre, a accompli des miracles. Et tous les gens glorifiaient, pas tout le monde, mais certains, plusieurs, glorifiaient qui? Glorifiaient Dieu d'avoir manifesté sa puissance en Jésus-Christ à travers les miracles qui se faisaient. Les gens voyaient Dieu agir. La mort de Jésus sur la croix et sa résurrection d'entre les morts. Une autre démonstration de la puissance de Dieu. À la croix, Jésus a reçu la condamnation pour mes péchés. Et le péché qui a été puni en Jésus-Christ sur la croix m'accorde le pardon des péchés. Par sa résurrection, Jésus a démontré qu'il avait la victoire sur la mort, sur le péché, sur Satan, pour que je puisse avoir la vie éternelle. Et l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 1 que en Christ, Dieu a manifesté l'infinie grandeur de sa puissance en Jésus-Christ. L'ultime manifestation de la puissance de Dieu manifestée à la croix, à la résurrection de Jésus-Christ. Et on pourrait en énumérer plusieurs comme ça. Les œuvres de Dieu sont infinies. Le psaume 40, verset 6 nous dit, « Tu multiplies, éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. » Les œuvres de Dieu et la puissance, la façon dont il manifeste sa puissance sont infinies. Un peu plus loin dans le psaume, verset 7, on voit que Dieu a manifesté sa grandeur en révélant son immense bonté. Verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Combien souvent le peuple d'Israël méritait le châtiment pour leurs péchés. Et combien souvent Dieu a eu compassion de son peuple par un Moïse qui intercédait pour le peuple. Et puis finalement, Dieu a fait grâce. Dieu a été lent à la colère et plein de bonté envers Israël. Il aurait pu toutes les exterminer, drette là, sur leur au péché qu'ils ont commis. Mais Dieu a été miséricordieux, compatissant. Il a manifesté la grandeur, sa grandeur à travers l'immense bonté qu'il a eue envers eux. J'ai parlé de Jésus tantôt qui manifestait la puissance de Dieu. Je pense que Jésus-Christ nous manifeste aussi combien Dieu est bon. La grande miséricorde de notre Dieu s'est manifestée en Jésus-Christ. Dieu a prouvé son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. On méritait le châtiment éternel, la séparation de la face de Dieu pour l'éternité. Et Dieu a prouvé son amour envers moi. J'étais perdu. Je ne cherchais pas Dieu aucunement. Et Dieu a dit, je vais avoir grâce sur sa vie à lui. Puis mon fils va mourir pour ses péchés. Le fils que j'affectionne avec mon cœur, celui en qui j'ai mis toute mon affection, va être brisé à la croix pour que Alexandre soit sauvé. Quelle grâce! Combien Dieu est grand! Et puis Dieu manifeste sa grandeur à travers cette immense bonté qui est là chaque jour dans nos vies. Et je pense que le verset 5, lorsqu'on dit le verset 5, on voit « Je chanterai tes merveilles », on voit ici que ce mot-là pourrait être remplacé par « Je méditerai tes merveilles ». Et je pense que l'exhortation de David, c'est de célébrer. Mais avant de pouvoir célébrer, si je prenais quelques instants pour méditer sur la grandeur de Dieu, comment il l'a manifesté dans ma vie, mon cœur se remplit d'adoration à la vue de ce que Dieu fait, combien Dieu est grand. Et je pense qu'on a intérêt, nous aussi, dans nos vies, à prendre le temps, une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, je ne sais pas, s'arrêter. Et dire, Seigneur, je veux prendre ce temps-là pour méditer sur ta grandeur. Méditer sur combien tu es grand, comment tu as manifesté ta puissance et ta bonté envers moi dans le passé, envers Israël, en Jésus-Christ. Tout ça, prendre le temps de manifester que même dans ma vie, combien Dieu a été grand, a manifesté sa puissance. Je pense que c'est un intérêt à prendre des notes parfois de ce que Dieu fait dans nos vies. George Muller, un homme de prière qui cherchait à voir la puissance de Dieu manifestée dans sa vie, a enregistré 50 000 prières répondues tout au long de sa vie. Cet homme-là avait un cœur qui contemplait et qui méditait sur la grandeur et la puissance, la bonté de Dieu dans sa vie. Je dois appliquer mon cœur à reconnaître ce que Dieu fait aujourd'hui dans ma vie. Dieu a manifesté sa puissance en Jésus-Christ. Il me donne un héritage qui est éternel. Puis on est en attendant, par exemple, ça commence maintenant de méditer sur la grandeur de Dieu. On le voit dans le passé, on va le voir dans le futur. Mais dès maintenant, Dieu manifeste sa grandeur, sa puissance. Prenons le temps, frères et sœurs, d'écrire. Dieu a répondu à cette prière-là. Je priais depuis longtemps. Dieu a répondu à ça. Gloire à Dieu. Célébrez Dieu. Et prendre le temps aussi, verset 4, que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Prendre le temps de partager avec la prochaine génération, mes enfants, ce que Dieu fait dans ma vie. Combien Dieu est grand. J'ai entendu mon père témoigner, mes parents témoigner de choses incroyables, qui relevaient du miracle. Je n'irai pas dans le détail, j'ai pas le temps, mais il y a plein de choses que Dieu a faites que je me rappelle. Et Dieu a manifesté sa grandeur, sa puissance dans leur vie. Et à travers leur témoignage, lorsque j'entendais leur témoignage, je voyais que Dieu était allé les chercher là où ils étaient, mais en même temps avait manifesté plusieurs fois dans leur vie la grandeur, la puissance. On a besoin de communiquer à nos enfants ce que Christ a fait à la croix, la grandeur, la beauté de l'Évangile, mais aussi ce que Dieu fait aujourd'hui dans ma vie. Que mes enfants puissent aussi célébrer la gloire de Dieu parce qu'ils voient que Dieu est grand dans ma vie et que j'accorde l'importance à la grandeur de Dieu. Je pense que c'est le travail aussi de l'Église locale de proclamer la grandeur, de célébrer la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu chaque semaine, chaque jour où vous êtes au travail, de partager l'immense bonté de Dieu en Jésus-Christ, pour partager ça aux gens autour de vous, pour que, justement, si on veut que toute bouche publie la louange de l'Éternel, ça va prendre des cœurs qui se convertissent au Seigneur et réalisent la grandeur qu'il a manifestée. On a besoin d'ouvrir la bouche et proclamer la grandeur de Dieu. Nous devons faire connaître sa grandeur à la prochaine génération. Une autre chose qu'on voit dans les versets 10 à 13, c'est que Dieu manifeste sa grandeur par son règne qui subsiste éternellement. La grandeur de Dieu, de notre Dieu, est démontrée par l'étendue de son règne. Dieu règne sur l'univers. Il règne sur tout ce qui existe. Mais il y a aussi le contrôle du temps. Dans l'éternité, Dieu règne. Son étendue, l'étendue de son règne, c'est pas juste physique sur l'univers, mais aussi dans l'éternité. Dieu a régné dans l'éternité passée. Il va régner pour l'éternité et il règne. Maintenant, la gloire du règne de Dieu est maintenant. Un jour, tout genou va fléchir devant ce roi. Mais pour certains, peut-être qu'il va être trop tard pour fléchir le genou. Vaut mieux fléchir le genou dès maintenant. Dieu a manifesté la grandeur de son règne en Jésus-Christ, qui est devenu le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dieu l'a élevé Jésus pour que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et là, en Jésus-Christ, on a ce roi qui règne et qui est digne de louange, l'agneau couronné de 1000 couronnes et qui est digne d'être Seigneur pour l'éternité. Mais il est digne d'être le Seigneur de notre vie aussi. Un jour, Jésus va revenir pour exercer un jugement sur la création. Jésus règne et un jour, tous vont ressusciter, les uns pour la mort, les autres pour la vie. Et la réponse que tu donnes à Jésus maintenant, à savoir s'il est ton roi ou si tu le rejettes comme roi, va déterminer sa réponse envers toi dans l'éternité. Lorsque tu vas arriver au jour du jugement, si tu as accepté Jésus comme ton sauveur, ton roi, le maître de ta vie, Jésus va t'accepter dans sa présence, dans la vie éternelle. Mais si tu rejettes la royauté de Dieu et de Jésus-Christ dans ta vie, Jésus va te rejeter pour l'éternité. Tu l'acceptes, il t'accepte. Tu le rejettes, il te rejette. Le règne de Dieu a un impact, pas juste dans la création, pas juste dans l'univers ou dans l'éternité, mais dans ma vie dès maintenant. Dieu doit régner dans mon cœur et Jésus doit régner dans mon cœur. Il doit être le Seigneur de notre vie. On doit s'humilier devant Jésus-Christ, s'humilier devant la grandeur de Dieu, reconnaître notre faiblesse, notre impuissance et se soumettre à lui entièrement. Dieu va manifester aussi sa grandeur en répandant sa provision sur toute la terre. On voit ça dans les versets 14 à 16. Il va répandre sa bonté, sa provision sur toutes ses œuvres. Et finalement, dans les versets 17 à 20, Dieu va le manifester en accordant la délivrance. Dieu accorde la délivrance à ses enfants. Verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Ce qu'on voit dans ces versets-là, c'est que on voit dans le reste du psaume la grandeur de Dieu qui est manifestée dans sa puissance, sa bonté, son règne qui est éternel. Mais maintenant, ce grand Dieu qui est au-dessus de toute chose vient et s'approche de moi. Dieu n'est pas un Dieu qui est loin, c'est un Dieu qui est proche. Il est près de tous ceux qui le craignent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Et lorsque je vois la grandeur de Dieu manifestée dans tout ce que je vois autour de moi et dans ma vie, ça devrait me pousser à dire, c'est toi mon roi, c'est toi mon père, je veux aller vers toi, je vis telle difficulté dans ma vie, j'ai ces épreuves-là, j'ai ces inquiétudes-là dans mon cœur, je viens à toi parce que tu es tout puissant et tu peux me délivrer dans ces moments-là. Dieu n'est pas un Dieu lointain, mais un Dieu qui s'est fait connaître à nous en Jésus-Christ et duquel on peut s'approcher avec confiance, s'approcher avec sincérité de cœur pour placer notre foi en lui et être délivré. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. La grandeur de Dieu devrait me pousser à me mettre à genoux, placer ma foi en lui pour ce que je vis, les difficultés que je suis en train de vivre. Peut-être que plusieurs situations peuvent arriver dans nos vies. Peut-être que ça fait des années que tu pries pour la conversion d'un de tes enfants. Rebelle, accepte pas l'Évangile. As-tu perdu courage dans la grandeur de ton Dieu, la grandeur de la compassion de Dieu? Je t'encourage à ne pas perdre courage. Médite sur la grandeur de Dieu et crie à lui pour qu'il vienne sauver tes enfants. Crie à lui pour qu'il vienne sauver les gens de ta famille pour qui ça fait des années que tu pries. Dieu est capable. Amen. Dieu est capable de sauver encore aujourd'hui. Dieu est capable de venir relever un cœur qui était perdu, de le changer, ce cœur de pierre-là, pour le transformer en un cœur de chair, pour qu'il accepte l'Évangile et saisisse par la foi Jésus-Christ. On doit reconnaître notre faiblesse. Des fois, on a des situations qui se présentent dans notre vie. On voit une montagne devant nous et on essaye, par nos propres forces, d'affronter cette montagne-là et dire « je suis capable ». Dieu te demande de te confier en lui et de dire « Seigneur, tu vas la tasser, la montagne ». C'est vers Jésus, c'est vers Dieu qu'on doit s'appuyer dans les situations les plus difficiles. Approchons-nous de Dieu pour saisir avec foi la délivrance qu'il veut nous accorder. Avoir sa confiance en sa délivrance et sa bonté. Et je vais terminer juste avec un autre point. Ce psaume-là est venu toucher mon cœur à un certain moment dans ma vie, surtout les versets 18 et 19. À un certain moment, lorsque Cynthia était pour accoucher de Nathan, notre premier garçon, j'avais vécu j'avais été pas mal occupé dans mon travail dans les derniers jours et puis j'avais manqué un peu de prendre du temps avec le Seigneur. Puis elle était dans la chambre d'hôpital et puis les contractions commençaient, mais nous autres, les hommes, on peut pas faire grand chose dans ce temps-là. Fait que j'ai pris ma Bible, puis ça faisait longtemps que j'avais pas pris un temps avec le Seigneur, fait que je vais lire le psaume de ce jour-là, et le psaume, c'était le psaume 145. Et lorsque j'avais des inquiétudes dans mon cœur, premier enfant qui arrive, on sait pas comment ça va se passer, ça va-tu bien aller, tout ça. Et puis là, j'ai lu les versets 18 et 19. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Et dans mon cœur est venu, je dis, ouais, mais Seigneur, j'ai pas pris du temps avec toi les derniers jours. Je suis vraiment sincère? Est-ce que tu vas accomplir mes désirs quand même? Puis des fois, on est comme ça dans notre relation avec Dieu. Comme si, pour que Dieu soit favorable à nous, il faut que j'accomplisse un paquet de choses. Il faut que je lise ma Bible, il faut que je prie, il faut que je jeûne, il faut que je serve dans l'Église. Et si je fais pas ces choses-là, c'est comme si Dieu était pas favorable à moi. En Jésus-Christ, Dieu est entièrement favorable à toi. Dieu est 100% pour toi en Christ. Si tu réalises que tu n'as pas été proche de Dieu, approche-toi de lui. Reviens à la croix. Demande pardon. Seigneur, j'ai manqué, j'ai pris le contrôle dans ma vie dernièrement. J'ai besoin de te laisser le contrôle. Je te demande pardon pour ça. Mais continue pas dans la culpabilité à dire, ouais, mais là, je me sens hypocrite parce que j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Puis là, le Seigneur, dans le fond, à quoi ça sert d'aller le voir? Tu sais, je suis pas si bon que ça. Il sait que t'es pas bon. Je disais pas ça pour que ça rie, mais il sait quand même. C'est vrai. Il sait que t'es pas bon. C'est pour ça qu'il a donné son fils à la croix. Reviens à lui. Demande-lui pardon, Seigneur, j'ai manqué. Mon désir, c'est vraiment de marcher avec toi, puis d'apprendre à te connaître davantage, de te prier pour être en relation avec toi, puis placer ma foi en toi en toute chose. J'ai manqué, je t'ai abandonné pour quelques jours, quelques semaines. Dieu va pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de toute iniquité. Et Dieu va nous pardonner, même si on n'a pas accompli tout ce qu'on pense qu'il faudrait faire pour que Dieu nous accepte. Dieu nous a déjà tout accepté. Il faut juste revenir à lui, se confier en lui. Placer notre confiance en lui pour dans toutes nos situations, dans toutes les situations de notre vie. Et finalement, verset 21, que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. C'est l'appel que David a pour toute l'humanité, mais c'est l'appel que Dieu a dans notre vie dès maintenant. Que nos bouches puissent publier la louange de l'Éternel, puissent célébrer sa grandeur, qu'on se tourne vers lui et qu'on le célèbre. Peut-être que tu es à un point dans ta vie présentement où tu n'as pas reconnu que Dieu est celui qui doit régner sur ta vie. Tu n'as pas reconnu la grandeur de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Tu as résisté jusqu'à maintenant peut-être d'accepter la royauté de Dieu dans ta vie. Tu as refusé le salut qui t'est offert en Jésus-Christ. Dieu veut te sauver. Dieu veut exercer sa compassion envers toi, sa miséricorde, son pardon. Un jour, Dieu va exercer son jugement et ta réponse, comme je disais, ta réponse devant Christ dès maintenant va déterminer sa réponse envers toi plus tard. Réalise la grandeur de Dieu. Réalise que c'est lui le maître de l'univers et que, en étant le maître de l'univers, doit avoir la royauté dans ta vie. Reconnais que ton péché t'a séparé de Dieu et qu'à cause de ton péché, tu vas être puni éternellement, mais que Dieu, en Jésus-Christ, a fourni un moyen, pourvu à une solution pour que tu puisses être pardonné, être sauvé et avoir une relation intime avec Dieu et entrer dans la gloire pour l'éternité. C'est ça que Dieu veut t'offrir. Si tu n'as jamais placé ta confiance en Jésus-Christ, jamais repenti de tes péchés, attends pas. Reconnais que Dieu est le roi de l'univers. Viens à Jésus-Christ pour recevoir le pardon par la foi. Et ensuite de ça, célèbre la grandeur de sa bonté envers toi. On va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, combien tu es grand, combien ton amour pour nous est grand, combien ta bonté s'est manifestée pour nous en ton Fils Jésus qui est mort à la croix pour nos péchés. Seigneur, un jour, quand j'avais 5 ans, j'ai reconnu mon péché. Tu m'as ouvert les yeux pour que je saisisse Jésus-Christ, mon seul salut. Merci de m'avoir sauvé, Seigneur. Et peut-être que des gens ici ce matin n'ont jamais reçu ce si beau cadeau que tu veux leur offrir, de la vie éternelle, de la grâce que tu veux leur faire, de pardonner tous leurs péchés, afin qu'ils puissent jouir d'une joie et d'une intimité avec toi. Que tu puisses venir toucher leur cœur, Seigneur, dès ce matin. Qu'ils puissent abandonner leur vie et s'en remettre à toi pour leur salut. Seigneur, aide-nous chaque jour de notre vie à reconnaître ta grandeur. Aide-nous à voir que tu es bon envers nous, que tu démontres tes compassions, ta miséricorde chaque jour, afin qu'on puisse te célébrer. Tu es grand et tu es très digne de louange. Que nos bouches proclament la louange de l'Éternel, que nos bouches proclament ta bonté pour nous et que nos cœurs soient transformés par toi afin qu'on se confie en toi chaque jour. À toi soit la gloire, Seigneur notre Dieu. Amen.